Oui, je vais vous parler des ressources cognitives face à la révolution de l'information. Alors, il est devenu banal, et c'est pourquoi je vais aller très vite là-dessus, de constater que nous vivons une véritable révolution de l'information, incarnée principalement par la sphère Internet. Plusieurs enquêtes sur les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique montrent sans surprise que nos concitoyens consultent de plus en plus fréquemment Internet et que plus de la moitié d'entre eux possèdent chez eux une connexion à haut débit. Il y a toute une série de données que je vais vous passer pour aller plus vite. Bref, la conclusion, c'est que nous utilisons de plus en plus souvent Internet et que nous l'utilisons souvent pour aller chercher des informations. La question que je veux brièvement et ici aborder avec vous est celle des ressources cognitives face à cette massification de l'accès à l'information. L'esprit humain étant limité tant du point de vue de ses compétences ordinaires que de celui du temps alloué au traitement de l'information, que peut-on dire des méthodes qu'il utilisera et de celles qui présideront à son orientation dans ce dédale cognitif ? Je ne prétendrai pas du tout ici à l'exhaustivité, mais j'examinerai quelques-uns des enjeux inférentiels qui me paraissent inquiétants. Chacun ayant bien compris que la diffusion de l'information ne correspond pas nécessairement à celle de la connaissance orthodoxe. Alors, nous le savons tous, la légitimité des grands systèmes idéologiques et religieux qui pendant longtemps assurèrent une certaine homogénéité représentationnelle dans nos sociétés est largement contestée. Leur légitimité oligopolistique plus qu'affaiblie, le marché, si vous me permettez cette métaphore, a mécaniquement vu apparaître une foultitude de propositions parcellisées. Cette balkanisation des représentations dans les sociétés contemporaines permet aux individus de composer en quelque sorte, sur mesure, des systèmes de négociation avec le monde, des systèmes intellectuels. Cette libre composition ne rencontre pas toujours l'expression de la pure connaissance. Elle est rendue aisée par la présence plurielle des propositions cognitives sur le marché et par leur plus grande accessibilité. Il est possible aujourd'hui d'adhérer à une représentation du monde tendant vers l'idiosyncrasie et convoquant par exemple un peu de christianisme, un peu de bouddhisme, quelques éléments de mythologie conspirationniste, tout en croyant que notre santé est globalement gouvernée par des ondes et en revendiquant cependant un certain esprit rationaliste. La conséquence, la moins visible et pourtant la plus déterminante de cet état de fait, est que toutes les conditions sont alors réunies pour que le biais de confirmation puisse donner la pleine mesure de ses capacités à nous détourner de la vérité. De toutes les tentations inférentielles qui pèsent sur la logique ordinaire, le biais de confirmation est sans doute celui qui est le plus déterminant dans le processus qui pérennise les croyances collectives et individuelles. En effet, on trouve souvent le moyen d'observer des faits qui ne sont pas incompatibles avec un énoncé douteux. Mais cette démonstration n'a évidemment aucune valeur si on ne tient pas compte de la proportion ou même de l'existence de ceux qui le contredisent. Pourtant, cette procédure paraît satisfaisante pour la logique ordinaire. Comme beaucoup d'auteurs l'ont fait remarquer, on pense tout particulièrement à la notion de rationalité procédurale chez Herbert Simon, les individus choisissent souvent, plutôt que l'inférence optimale, une inférence satisfaisante, parce que la première exige un investissement en temps et en énergie mentale dont la seconde les dispense. Dans le fond, les acteurs sociaux acceptent certaines explications objectivement douteuses mais relativement convaincantes parce que sur nombre de sujets, la motivation des individus n'est pas assez forte pour leur inspirer des procédures de contrôle mental. C'est que si les connaissances méthodiques produisent souvent un effet cognitif supérieur aux propositions seulement satisfaisantes que sont les croyances, elles impliquent aussi un coût d'investissement plus important. La probabilité de chance d'endosser celle-là est par conséquent dépendante de la facilité à rencontrer celle-ci. Parce que les croyances proposent souvent des solutions qui épousent les pentes naturelles de l'esprit, elles produiront un effet cognitif qui sera très avantageux au regard de l'effort mental impliqué. Une fois une idée acceptée, les individus persévéreront généralement dans leurs croyances, comme beaucoup d'expérimentations l'ont montré. Ils le feront d'autant plus facilement que la diffusion accrue et non sélective de l'information rendra plus aisée et plus probable la rencontre de données confirmant la croyance. Quelqu'un croit-il, par exemple, que la CIA a fomenté les attentats du 11 septembre ? Il trouvera grâce à n'importe quel moteur de recherche sur Internet et en quelques instants des centaines de pages lui permettant d'affirmer sa croyance et lui permettant de constituer une argumentation redoutable. La consultation de sources d'informations qui n'épousent pas les représentations du monde de l'individu peut aisément lui apparaître comme une perte de temps. C'est une donnée mentale tout à fait banale. Vous constaterez, selon votre sensibilité de droite ou de gauche, que vous n'avez tendance à ne pas lire tout à fait les mêmes journaux. Alors que la pure logique devrait vous conduire à aller chercher des informations qui éventuellement pourraient mettre en péril votre système de représentation. Si l'on tient compte de ce mécanisme de recherche sélective de l'information, il s'ensuit que ceteris paribus, la diffusion non sélective de toutes sortes de données est de nature à amplifier le biais de confirmation et donc la pérennité de l'empire des croyances. En d'autres termes, plus l'individu aura accès à des informations différentes, plus la probabilité qu'il puisse en rencontrer une au moins qui confirme son système de croyance est grande, ce qui constitue un paradoxe remarquable de notre contemporanéité informationnelle. Mais il y a plus. Et quelque chose ne me semble pas avoir été bien vu par les différents commentateurs de la culture Internet, c'est qu'il s'agit en quelque sorte d'un marché cognitif hypersensible à la structuration de l'offre et mécaniquement à la motivation des offreurs. C'est l'un des facteurs principaux de l'organisation de la concurrence cognitive sur ce marché. Internet, évidemment, ne véhicule pas que des idées fausses. Ne voyez pas dans ce que je vais vous dire une charge contre Internet. J'utilise comme vous tous les jours et je serais bien démuni si je ne pouvais pas utiliser cet outil formidable. Mais nous avons vu jusqu'à présent, disons, que la diffusion non sélective de l'information était favorable à l'expression du biais de confirmation. Mais j'ai laissé une question cruciale dans l'ombre. Est-il possible de se faire une idée de la nature de la concurrence qui caractérise la coexistence sur ce marché de produits contradictoires? Une façon d'éclairer cette question est de se demander, cette voie que j'ai choisie, est de se demander ce qu'un internaute, sans idée préconçue sur un sujet, bon, c'est une hypothèse d'école, parce que sur aucune hypothèse, nous n'avons aucune idée préconçue, mais peu importe. Donc, un internaute, sans idée, en tout cas, déterminée sur un sujet, qu'est-ce qu'il risque de rencontrer comme point de vue sur Internet à propos de tel ou tel thème ? On sait que parmi tous les moteurs de recherche, Google a conquis, en tout cas dans le monde occidental, une position prééminente, et ça m'a incité à utiliser tout simplement ce moteur de recherche pour, en quelque sorte, simuler la façon dont un internaute moyen pouvait accéder à un certain nombre d'offres cognitives sur 4 sujets que j'ai choisis. Je vais vous expliquer brièvement pourquoi. L'astrologie, le monstre du Loch Ness, les cercles de culture, appelés encore crop circle, vous savez, ce sont ces espèces de cercles bizarres qui apparaissent dans les champs de blé la plupart du temps, et la psychokinèse. Ces 4 types de propositions m'ont paru intéressantes à tester dans la mesure où ils recouvrent des domaines de crédulité bien différents. Certains relèvent de la cryptozoologie, d'autres des pouvoirs de l'esprit, etc. Et qui permettaient du coup d'éviter de rencontrer des communautés de croyants trop homogènes. Ces thèmes ont été choisis aussi parce que l'orthodoxie scientifique conteste la réalité des croyances qu'ils inspirent. C'est vrai pour la psychokinèse, le monstre du Loch Ness, les cercles de culture conçus comme des signes extraterrestres. C'est vrai encore de l'astrologie. Ces 4 thèmes offrent donc un poste d'observation intéressant pour évaluer le rapport de force sur ce marché entre des informations considérées comme orthodoxes par la communauté scientifique et d'autres qui ne le sont pas et que je considérerais pour cette raison, à titre gnoséologique, comme des croyances. Non pour les disqualifier, il n'est pas besoin en fait d'examiner la vérité de ces énoncés ici, mais pour mettre en exergue une réalité qui sans cette distinction se dissiperait. Pour le dire encore autrement, ce qu'il s'agira d'observer ici, c'est la concurrence entre des types d'énoncés qui prétendent rendre compte des mêmes phénomènes, les uns pouvant se réclamer du consensus de l'expertise scientifique, les autres non, telle qu'elle peut être saisie par certaines des traces qu'elle laisse sur la toile. Celles-ci ne sont en aucun cas une expression représentative de l'opinion publique en général ou de celle des internautes en particulier, bien entendu. Elles donnent en revanche une idée de ce que l'on peut trouver si on fait une recherche, je dirais, ingénue sur ces questions. Seulement, le moteur de recherche, comme vous le savez, propose des milliers ou des centaines, souvent des milliers de propositions, quel que soit le thème. Donc, je me suis inspiré, là encore, de ce que l'on sait du comportement des internautes pour essayer de réguler ma recherche. On sait que, globalement, pour aller vite, les internautes ne vont pas au-delà des 3 grandes premières pages proposées par Google, c'est-à-dire les 30 premiers sites. Et généralement, lorsqu'ils échouent, ils restent sur Google pour chercher avec un autre mot-clé ce qui les intéresse. Et Google est suffisamment bien fait pour que cette démarche soit rarement nécessaire. Par ailleurs, ils rentrent 1 ou 2 mots-clés au maximum pour faire leur recherche. Donc la procédure que j'ai choisie fut toujours la même. Parmi tous les sites mentionnés par Google, je n'ai retenu que les 30 premiers en utilisant pour faire cette recherche des mots-clés minimums, psychokinèse, monstre du Loch Ness, astrologie, cercle de culture. Parmi les 30 premiers sites, il y avait un certain nombre de sites qu'on pouvait classer différemment, les sites non pertinents, les sites neutres, les sites défavorables à la croyance et les sites favorables à la croyance. Les sites non pertinents, c'est les sites, par exemple, qui apparaissaient, qui n'avaient rien à voir avec la défense ou la non-défense d'une croyance. Par exemple, comme le nom Monstre du Loch Ness est assez banal, il y avait aussi bien un site qui vous proposait de vendre une bande dessinée où le chien Scooby-Doo luttait contre le monstre du Loch Ness, que j'ai trouvé non pertinent, évidemment, pour évaluer cette proposition en termes de croyance. Il y avait aussi des lampe, par exemple, en forme de monstre lyonnais. Vous voyez ce genre de choses. Tous ces sites-là ont été classés en non pertinents. Les neutres, alors je ne rentre pas dans le détail, si vous voulez, peut-être les questions me permettront de le faire, je ne rentre pas dans le détail de ce classement. Évidemment, il y a quelque chose d'un peu impressionniste dans certains cas. Mais disons, les neutres étaient classés neutres parce qu'ils, soit ils ne prenaient pas parti, soit ils mettaient en exergue les deux types d'argumentation en faveur ou en défaveur de la croyance. Enfin, favorable, défavorable, vous avez compris comment ça fonctionnait. À l'intérieur de ces sites, il y a des forums, il y a des photos, il y a des films, il y a des dossiers, etc. Là aussi, j'ai procédé à toutes sortes de classements, mais je vous passerai cela parce qu'on n'a pas le temps. Donc la recherche de la psychokinèse, entendue comme la capacité à influencer mentalement un objet, un processus ou un système sans l'utilisation de mécanismes ou d'énergie connus, s'est faite le 20-8 2010 et le 23-8 2010. Je précise les dates parce qu'évidemment, le changement Google peut varier. Les sites favorables à l'hypothèse de l'existence de pouvoir de l'esprit arrivent en tête devant les sites neutres, puis les sites défavorables. Il représente, si on ne tient compte, c'est ce que je vais faire à chaque fois, que les sites défavorables et les sites favorables à la croyance. Bien, dans ce cas de figure, les sites favorables à la croyance représentent 74% des sites et 26% seulement pour les sites défavorables. Le monstre du Loch Ness. La recherche menée concernant ce thème s'est faite le 13-7-2010. Elle porte donc sur l'hypothèse selon laquelle un monstre vivrait, encore vivant, une créature inconnue de la zoologie officielle ou au minimum considérée par elle comme disparue dans les eaux d'un lac écossais. On constatera évidemment que ce thème, parce qu'il est très connu, convoque un grand nombre de sites non pertinents, 27%, c'est sur ce thème qu'il y a eu le plus de sites non pertinents. Ça s'explique par la notoriété donc, de cette créature légendaire. Elle inspire des fictions, des objets, etc., etc. Pour rentrer dans le vif du sujet et comparer les sites favorables et les sites défavorables, et bien dans ce cas de figure, 78% des sites étaient favorables et 22% étaient défavorables à l'hypothèse du monstre. Les cercles de culture, cette recherche a été menée du 19 au 21 7 2010. Les cercles de culture, encore nommés crop circles, sont de grands cercles qui apparaissent mystérieusement, généralement dans les champs de blé. Ceux-ci peuvent être de simples cercles ou dessiner des figures géométriques beaucoup plus complexes. Personne ne doute de la matérialité de ces phénomènes. Il existe des cercles de culture. Cependant, il en existe plusieurs interprétations concurrentes, évidemment. La plus immédiate est celle du canular, d'autant que ces phénomènes étant principalement apparus dans le sud d'Angleterre dans les années 80, pouvaient être facilement reproduits artificiellement. D'ailleurs, en septembre 91, deux artistes, Doug Bower et Dave Chorley, prétendirent qu'ils en étaient les auteurs et qu'ils avaient réalisé plus de 200 crop circles depuis 1976. Ce sont les sites défendant la croyance, selon laquelle ces cercles sont en fait des signes extraterrestres qui arrivent en première position. Ils représentent, si l'on ne tient compte que des sites prenant parti clairement, 87% des opinions exprimées contre 13% pour les sceptiques. Mais on notera aussi qu'il y a beaucoup de sites neutres sur cette question. L'astrologie, enfin, la recherche menée sur l'astrologie s'est faite le 12-7-2010. Les enjeux économiques autour de ce thème expliquent sans doute le rapport de force très favorable à la croyance qu'on observe parmi les 30 premiers sites proposés par le moteur de recherche, puisqu'on observe 97% des sites favorables à la croyance astrologique, pour 3% seulement qui sont défavorables. Mais je dois dire que pour expliquer ce résultat, un certain nombre de sites présente des dossiers favorables à l'astrologie et en même temps des services astrologiques. Donc là, évidemment, mais ce n'était pas le cas des trois autres sites que j'ai mentionnés, sauf à soupçonner évidemment que le ministère du Tourisme en Écosse milite en faveur de l'existence du monstre de Loch Ness. On voit qu'il n'y a pas directement d'intérêt économique dans ces thèmes. Le facteur économique n'est pas à négliger, mais n'explique donc cependant pas les rapports de force toujours défavorables pour la connaissance orthodoxe que l'on peut observer sur les quatre thèmes évalués, même lorsque ceux-ci convoque pas d'enjeu d'intérêt donc particulier évident. En fait, Internet révèle des interactions informationnelles très particulières. La structuration de l'offre, notamment, même si c'est pas le seul enjeu, mais je vais un peu vite, est sur certains sujets largement plus dépendante de la motivation des offreurs que de celle des demandeurs, et surtout de ceux qui seraient en mesure techniquement de constituer des offres concurrentielles et contradictoires. Pour l'exprimer autrement, les croyants sont généralement plus motivés que les non-croyants pour défendre leur point de vue et lui consacrer du temps. Pour cette première raison que la croyance est partie prenante de l'identité du croyant, il aura facilement à cœur de chercher de nouvelles informations affermissant son assentiment. Un conspirationniste, par exemple, cherchera à retenir quelques-uns des arguments qui permettent de croire que les attentats du 11 septembre ont été fomentés par la CIA. Le non-croyant sera souvent dans une position d'indifférence. Il refusera la croyance, mais sans avoir besoin d'une autre justification que la fragilité de l'énoncé qu'il révoque. D'ailleurs, ça se voit dans les conversations, tout simplement, de comptoir ou de café. Quand quelqu'un croit, par exemple, au mythe conspirationniste, il a souvent plus d'arguments que celui qui n'y croit pas, parce que celui qui n'y croit pas, s'il n'est pas assez motivé pour cela, s'il n'en fait pas une croisade, va hausser les épaules, va rire, va se moquer, va n'avoir que seulement de l'ironie à opposer à une argumentation qui peut être convaincante si on n'y oppose pas une contre-argumentation. Alors, ce fait d'ailleurs, j'ai voulu quand même mesurer cette hypothèse, eh bien, ce fait est tangible sur les forums. Parmi les 23 forums, tout thème confondu, qui ont été évalués dans cette recherche, 9 ne peuvent pas être utilisés parce qu'ils sont non pertinents, mais parmi les 14 restants, 211 points de vue sont exprimés, 83 défendent le point de vue de la croyance, 45 la combattent et 83 sont neutres. Ce qui frappe à la lecture des forums, c'est que les sceptiques se contentent souvent d'écrire des messages ironiques. Ils moquent la croyance plutôt qu'ils n'argumentent contre elle. Alors que les défenseurs de l'énoncé convoquent des arguments certes inégaux, liens, vidéos, paragraphes copiés, mais étayent leur point de vue. Parmi les postes proposés par ceux qui veulent défendre la croyance, 36% sont soutenus par un document, un lien ou une argumentation développée, alors que ce n'est le cas que dans 10% des cas, donc pour ceux qui postent des contradictions de cette croyance, les non-croyants. Une seconde raison est que ceux qui seraient en mesure d'opposer des argumentaires robustes aux allégations des croyants n'ont pas beaucoup d'intérêt à le faire. Reprenons l'exemple de l'astrologie. N'importe quel astronome pourrait facilement faire la promotion de certaines des raisons qui conduisent à trouver les propositions astrologiques douteuses. Certains ne s'en privent pas d'ailleurs. Mais la plupart du temps, ils ne se sentent pas plus qu'agacés par les allégations astrologiques. Celles-ci ne représentent aucun danger pour eux. Les combattre serait chronophage et sans intérêt institutionnel. Ils ont raison en un sens. Mais la conséquence de leur démotivation est que les acteurs de l'astrologie, beaucoup plus résolus qu'eux, ont réussi à instaurer un oligopole cognitif paradoxal. On trouve beaucoup plus aisément leur point de vue sur Internet que celui de ceux qui pourraient facilement démontrer l'inanité des thèses astrologiques. C'est un fait qui a d'ailleurs qui était déjà avéré pour le marché du livre, mais qu'Internet amplifie dans la mesure où il réduit considérablement les coûts de l'offre. L'exception à cette tendance vient des milieux rationalistes qui, pour des raisons de militance, trouvent une motivation suffisante pour consacrer du temps et de l'énergie mentale à s'opposer. Parmi l'ensemble des points de vue contestant les quatre croyances que j'ai mentionnées, on trouve 54% qui sont émis par des sites rationalistes revendiqués, zététiques, AFIS, sceptiques du Québec, etc., etc. Donc en fait, il y a une grande concentration de la part des sites qui contestent la croyance, alors qu'il y a une grande dispersion de la part des sites croyants. Il me paraît acceptable de supposer que cette concurrence sur le marché cognitif puise à la source de la motivation des croyants qui est supérieure à celle des sceptiques. Sans doute, lorsqu'il existe un débat social très vif sur une question, les non-croyants sont-ils parfaitement capables de se mobiliser et occuper leur espace naturel dans le débat public. Mais la plupart du temps, tout se passe comme s'il existait une sorte de ventre mou dans notre rationalisme contemporain dans lequel les croyances se taillent allègrement un espace très conséquent et un peu paradoxal. Je vous remercie.
Merci. Nous avons le temps d'une ou deux questions. Oui, monsieur.
Vous avez dit que ce que vous voyez sur Internet ne faisait qu'amplifier ce qui est disponible sur un support comme le livre.
Ouais.
Mais avez-vous pu le quantifier ? Est-ce que vous savez vraiment si on a doublé, par exemple, la proportion de propositions favorables par rapport au livre ? Parce que...
Je pense qu'en enseignant, par exemple, on a le même problème pour enseigner l'évolution. Ouais. Tous les sites qu'on mettra sur l'évolution, la plupart, seront des sites créationnistes.
Absolument.
Et on ne sait pas très bien comment réagir à ça aujourd'hui, mais déjà dans le livre, on a la même situation. Donc est-ce que c'est vraiment beaucoup bien pire avec Internet et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire ça ?
Non, la situation était déjà présente dans le livre, hein, je l'ai dit. Ce qui rend plus inquiétant la chose, c'est que pour le coup, maintenant, et c'est tant mieux, tout le monde a Internet, donc il y a un accès. Alors qu'acheter un livre, le lire, il y a un coût d'investissement qui est supérieur. Et donc, ça touchait toujours une proportion très marginale de la population. Les motiver pour aller acheter un livre sur l'astrologie, il faut déjà être croyant. Tandis que là, on peut parfaitement supposer que quelqu'un veut simplement... Il voit un espèce de documentaire étrange, un reportage étrange sur une chaîne du câble à la télévision, il veut en savoir plus sur le monstre du Loch Ness. Et là, toute chose égale par ailleurs, il a plus de probabilité de chance de tomber sur un site qui lui propose d'ailleurs des argumentations. Il ne faut pas les moquer, parce que certaines sont tout à fait convaincantes s'il n'y a pas de contre-argumentation. Je pense surtout au mythe conspirationniste. Je veux dire, si vous regardez sur le 11 septembre, si vous n'avez pas de contre-argumentation qui s'y oppose, chacun des arguments est faible, c'est un millefeuille argumentatif, mais l'ensemble Parce qu'il y a plus de 100 arguments, je les ai dénombrés, concernant le 11 septembre. Et donc l'ensemble donne une impression de véracité. Tout ne peut pas être faux. Alors je ne réponds pas du tout à votre question. Non, je n'ai pas mesuré la différence quantitative, mais à la limite même qu'il y ait une constance ne rendrait pas le constat moins inquiétant. Et comment faire ? Ben là, je m'en tiens au diagnostic pour l'instant, qui est un peu inquiétant. J'ai un peu forcé le trait, sans doute, en prenant des croyances bien spécifiques. Mais je pense que les choses sont là. Et quant à aux médicaments, j'y réfléchis activement.
Bien. Nous avons le temps pour une dernière brève question.
Est-ce que vous avez poussé la recherche sur des sites, non pas sur des moteurs de recherche simplement, mais sur des sites d'agrégation, par exemple Wikipédia, qui pratique structurellement la neutralité du point de vue comme modèle épistémologique, ce qui n'est pas anti-rationaliste, mais qui laisse place à des débats. Je ne sais pas si vous avez...
Non, je n'ai pas regardé spécifiquement Wikipédia, mais simplement, évidemment, dans les 30 premiers sites, la plupart du temps, il y avait les sites Wikipédia. Donc, sur les quatre thèmes rencontrés, je dois dire, même c'est pas du tout représentatif, il faudrait faire une étude bien plus approfondie, que Wikipédia défendait souvent un point de vue plutôt rationaliste, mais il laissait place pour les deux types d'argumentation. Hein, sur un des thèmes, les argumentations, je les classais comme neutres, et assez souvent, on pouvait le classer dans les sites non-croyants, compte tenu de la place laissée aux arguments. Tout simplement parce que je crois que les rationalistes ont plus d'arguments que ceux qui défendent la croyance sur certains thèmes. Alors, Wikipédia, évidemment, a plein d'effets pervers. Par exemple, vous savez qu'il y a, je ne sais pas combien de pages, peu de lignes sur tel thème important et beaucoup de pages sur le sabre laser, par exemple. Et évidemment, là aussi, on voit bien que c'est un marché qui est dépendant de la motivation des offreurs. Et comme les offreurs sont apparemment souvent des geeks, comme on dit, ou des nerds, le sabre laser, le fonctionnement du sabre laser qui n'existe pas, les intéresse beaucoup. Il y a plein d'effets pervers. Et d'ailleurs, indépendamment des croyances, il y a un site qui s'appelle, je ne sais plus s'il existe d'ailleurs, dig.com, qui proposait toutes sortes d'articles, etc. On a montré qu'un très petit nombre d'internautes étaient capables de faire 30% des pages en réalité. Hein. Enfin, il y a toutes sortes de données qui montrent que ça fonctionne comme cela. Et moi, je m'y suis intéressé seulement sous l'angle de la croyance, parce que c'est l'objet qui m'intéresse le plus.
Bon, merci, on va continuer. Je suis désolée. On pourra poursuivre cette conversation très intéressante.